Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Que sollicitez-vous à Versailles?
La charge d'assainir les marais de la Dombe, un paradis pour les moustiques. La vie d'un paysan n'y dépasse pas 35 ans.
Pauvres gens, comme un malheur ne vient jamais seul, leur simple évocation provoque l'ennui.
C'est que voyez-vous, monsieur, les paysans ne nourrissent pas seulement les moustiques, ils nourrissent aussi les aristocrates.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Une historienne a dit un jour dans une interview donnée à Jean Birnbaum pour Le Monde, elle a dit ceci. Tous mes livres partent à la recherche d'une écriture qui par sa syntaxe, ses sonorités, ses cadences pourrait non pas mimer le XVIIIe siècle, mais le transcrire avec des mots fidèles au rythme et aux sensations de ceux qui vivaient alors, avec la volonté de ne jamais oublier combien passé et présent interfèrent. Et dans cette recherche, j'assume pleinement l'écho entre les interrogations affectives d'autrefois et les questions politiques actuelles. Fin de citation. Cette historienne, je ne veux pas la cacher davantage, c'est Arlette Farge, bien connue des auditeurs de France Culture. De pareils propos et cette concordance des temps qu'elle assume entre jadis et maintenant l'institue forcément en invité privilégié de notre émission. Pour parler de quoi? Eh bien des douleurs et des déchirures sociales à la fin de l'Ancien Régime, puisqu'elle a consacré de longues dates de précieux travaux à la vie fragile des plus humbles, à leur corps brutalisé, aux maladies qui les frappent plus que d'autres, à l'insécurité qu'ils éprouvent au quotidien. Tout comme aussi, dans un livre récent, au regard jeté sur ces classes défavorisées par l'élite qui les surmonte. Ce sera sur quoi d'ailleurs, surtout, nous allons assister. À Arlette Farge, il revient donc ce matin d'expliciter pour nous les motifs qu'elle peut avoir de parler d'un écho contemporain, en considérant bien sûr, au-delà de notre France, les peuples de la planète que défigurent bien davantage la souffrance et la misère.
Monsieur Vincent, ce que vous avez fait est admirable. L'aide aux réfugiés des provinces envahies et dévastées a été providentielle. Mais d'où faites-vous sortir vos boules de pain, vos vieux vêtements? Nous voudrions bien, aux finances, savoir un peu autour de quoi se passe.
On nous les donne, monsieur le chancelier.
Vous en avez de la chance. Mais nous, ministres, on ne nous donne rien. Les impôts ne rentrent plus. Le peuple crie grâce. On lui a tout pris. Mais où cela a-t-il passé? Nous n'avons pas un sou. Les misérables pullulent. Savez-vous qu'ils deviennent un danger public à Paris? On mendie partout. Et quand on ne donne plus, maintenant, on menace.
Usons faim, monsieur le chancelier.
La faim, la faim. Au poste où je suis, il y a d'autres faims à calmer. La France aussi a faim. Sécurité. D'ordre. Je vous ai fait venir pour vous annoncer une bonne nouvelle. Soyez heureux, vous qui leur avez consacré votre vie. Dans 2 jours, il n'y aura plus un pauvre à Paris, monsieur Vincent.
Comment cela, monsieur?
C'est tout simple, mon cher. Je les arrête.
Mais, monsieur, la pauvreté n'est pas le crime.
Je le regrette, mais elle en est le plus sûr chemin. Mon rôle est de prévoir, je préviens. J'ai des locaux, la Pitié, le Refuge, la Savonnerie, Bicêtre, la Salpêtrière, je les y entasse. L'ennui, c'est qu'il faudra les nourrir. Mais enfin, on se débrouillera. La salubrité de Paris avant tout.
Monsieur, les pauvres sont des hommes. Que faites-vous de leur liberté?
La liberté de quoi, monsieur? D'importuner tout le monde dans la rue, de crever de faim? Je les nourris, je les abrite. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus?
La charité, monsieur le chancelier, c'est de les aider. En leur laissant leur qualité d'homme.
La charité, la charité. Mais c'est vous qui l'avez inventée, la charité. Avant vous aussi, monsieur, il y avait des pauvres. Mais il n'empêchait pas les honnêtes gens de dormir. Maintenant, il y en a partout. Ma parole, on croirait que vous les inventez.
Arlette Farge, bonjour.
Bonjour.
Je pense que vous avez reconnu ici un extrait du film célèbre Monsieur Vincent, un film qui a eu beaucoup de succès en France en 1947 quand il est sorti, un film de Maurice Cloche avec Pierre Dux dans le rôle du chancelier Séguier, le ministre, et Pierre Fresnay dans le rôle de Saint Vincent de Paul. Bien sûr, nous sommes là un siècle avant votre 18e siècle préféré, mais il me semble qu'il y a des continuités qui justifiaient que nous donnions cet archive pour ouvrir notre conversation qui va se consacrer beaucoup à ce dialogue spécifique qui s'est organisé ou qui ne s'est pas organisé entre les élites et le peuple souffrant pendant la période de l'Ancien Régime. Est-ce que vous retrouvez là certaines des thématiques qui vous sont chères? Je dis qui vous sont chères car vous avez, dès le début de vos recherches avec Michel Foucault, publié un livre qui avait été très, très remarqué à l'époque sur les lettres de cachet qui étaient sollicitées par les familles pour faire échapper les mauvais sujets à la justice. Vous vous êtes préoccupé de ces questions dès l'origine et puis vous y revenez dans un livre récent qui s'appelle « La déchirure, souffrance et déliaison sociale au XVIIIe siècle ». Alors, ce Saint-Vincent de Paul en face de ce ministre, vous en dites quoi ?
Vraiment, il est très proche de ce qu'on a pu entendre au XVIIIe siècle, ou tout du moins, je pense qu'il libère une pensée qui a toujours été soit clamée ouvertement, comme là, soit finalement cachée, qu'on n'oserait peut-être pas dire comme cela aujourd'hui, mais qui fait partie, je pense, de l'intériorité de beaucoup de personnes. La pauvreté fait peur. Est-ce que le pauvre est un homme ? D'ailleurs, en plus de cela, moi, j'ai une conviction certaine, en plus de la pauvreté matérielle, c'est que le pauvre est un être pensant, comme le disait Jacques Rancière, et qui m'a inspiré aussi beaucoup dans mes travaux. C'est-à-dire que le pauvre, c'est pas un objet. Or, toute la société de l'Ancien Régime, celle que je connais le mieux, parce qu'après, je connais moins, c'est une société qui a peur de ses pauvres et qui, surtout, le pauvre est invisible, vraiment complètement invisible. Et lorsqu'il est visible, il fait extrêmement peur et il serait jamais question qu'il puisse avoir une pensée. D'ailleurs, la monarchie ne cesse de jouer sur cet argument. Il ne pense pas, donc ce n'est pas grave que nous fassions ceci ou cela.
Il reste des traces, vous pensez, dans notre société française de cela, ou bien il faut aller chercher dans les pays dits en voie de développement et souvent prolétaires, des pays très pauvres, des échos à cet ancien régime français?
Ah, moi, je pense que à l'heure actuelle, bien sûr, personne ne se permettrait de dire, de penser, je ne sais pas, mais de dire qu'un pauvre ne pense pas. Mais de toute façon, les élites, nous tous, nous pensons qu'ils pensent mal. En tout cas, que ce n'est pas comme ça qu'il faut penser, qu'ils n'ont pas la culture, qu'ils ne disposent pas des manières, des conduites qui sont les nôtres. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais derrière, il y a cette espèce de chose en filigrane, comme une brume, vraiment comme une brume épaisse qui pèse sur leurs épaules. Je pense que quand on regarde les gens allongés dans la rue, on est vraiment... Soit on ne les voit pas, soit on est très ennuyé parce que dans notre cerveau, il se passe des tas de choses contradictoires.
On fait effort pour ne pas les voir.
D'abord, on fait effort pour ne pas les voir. Ensuite, on ne les voit pas, je crois, par moment. Et ensuite, après, la compassion, je crois, comme le dit d'ailleurs l'encyclopédie, la compassion, c'est du chagrin mêlé au plaisir. Je pense que c'est assez un sentiment... trouble. Oui, le plaisir, on l'entend au sens malsain du terme, bien sûr. C'est-à-dire, je ne fais pas partie d'eux. C'est un plaisir de ne pas faire partie d'eux.
Oui.
Et la compassion, elle est très mélangée psychanalytiquement, on pourrait dire beaucoup de choses.
L'encyclopédie, oui. Citons exactement à propos de la compassion. Affliction qu'on éprouve à la vue, au récit, au souvenir des mots de quelqu'un. C'est un sentiment auquel on se livre avec une sorte de plaisir. Oui. Le plaisir qu'on y éprouve vient du témoignage qu'on se rend à soi-même, qu'on a de l'humanité. Fin de citation. Avant d'en venir à ces relations compliquées des élites au XVIIIe siècle avec les classes défavorisées, évoquons ce qu'a été cette souffrance, si vous voulez bien, Arlette Farge. Et peut-être Pour en rendre compte, le mieux est-il d'évoquer le concentré de toutes les émotions, tous les dangers, toutes les frustrations, de toutes les misères que constitue le quotidien d'une grande ville. Et pour ouvrir ce moment de notre échange, cette chanson de Damia de 1937, une chanson de Raymond Asso, Lucquine et Paul, « Je suis dans la dèche ».
Le ciel est bas, morne, insipide, et rien ne brille au firmament. Sur le boulevard d'un pas rapide, les gens passent indifférents. Et moi, je vais la tête vide, tremblant de froid, les membres lourds, courbant le dos, le front livide, et mon cœur frappe à grand coup chaud. Je suis dans la dèche, je n'en peux plus, je voudrais dormir, j'ai même plus de prêche, j'ai le cœur tout vide, les mains tout rêches. Je suis dans la dèche, je n'en peux plus. J'ose pas rester dans les lumières, les gens me regardent d'un air curieux, et dans le brouillard, les réverbères rigolent de tous leurs petits yeux. Faut l'habitude de la mistoufle, ça s'apprend pas comme ça d'un coup. J'ai peur du bruit, du vent qui souffle. J'ai peur des hommes, j'ai peur de tout. Je suis dans la dèche, je n'en peux plus. Je voudrais dormir, j'ai même plus de crèche. J'ai le cœur tout vide, les mains toutes rêches. Je suis dans la dèche, je n'en peux plus. Je m'arrête un peu, les jambes lourdes. Un homme approche, comme il fait noir. J'ose tendre la main. Parce que je suis gourde, il me prend pour une fille de trottoir. Et dans la nuit, je pars maudite, sans savoir où mène mes pas. La rage au cœur, je vais plus vite. Tiens, de l'eau qui coule, là, tout en bas. Et le clapot. Ça cogne là dans ma pauvre caboche. Hop. Dans la flotte, qu'est-ce que ça
Arlette Farge, donc l'entre-deux-guerres ici, mais beaucoup des sentiments, des émotions, des douleurs de la grande ville au XVIIIe siècle. La peur d'abord, la peur, le risque d'agression, la solitude, la misère et finalement la noyade dans la Seine. L'eau ayant un grand rôle, vous le montrez bien dans tous vos ouvrages, dans cette précarité de la vie des pauvres.
Cette chanson est très belle d'abord. Ce qui m'impressionne dans cette chanson, c'est que justement, c'est une aventure singulière, celle-là, d'une femme qui donc est dans la rue et va finir par se noyer parce que voilà, elle est dans la dèche, comme elle le dit. Et en fait, ça fait partie aussi de ce que j'avais voulu faire en travaillant sur les pauvres, c'était de travailler sur les circonstances vraiment singulières de tous les accidents, blessures, frayeurs, agressions subies, carrosses qui les renversent, noyades, parce qu'ils travaillent sur les bateaux, sur la Seine, qui est vraiment l'artère principale de Paris. Et en même temps que de ce sujet-là, on a toujours parlé collectivement. Bah oui, voilà, la population est miséreuse, etc.
Vous-même, vous êtes partie du quantitatif au début de vos travaux, voilà. Il y a une trentaine d'années. Vous êtes arrivée au qualitatif et puis ensuite, dans un dernier mouvement, le singulier, vous permet finalement de retrouver le social.
Oui, mais absolument. Et le singulier que je veux vraiment raccrocher au social. Mais c'est pour ça que j'ai pris cette attention-là. Et c'est vrai que Paris au 18e, on a beau avoir lu Merci, comme beaucoup de personnes l'ont lu, on a entendu parler, ou Les Nuits de Paris de Rétif de la Bretonne. Lorsqu'on est face aux archives, et face vraiment aux documents, à ce qui est, soit un rapport de médecin sur quelqu'un de blessé dans la rue, soit les soins donnés de façon si étonnante, lorsqu'un noyé est ramassé, souvent de façon très précaire, parce qu'avant de le mettre sur le bord de l'eau, on va le tirer dans l'eau avec des cordes, donc il arrive particulièrement mal, et qu'à ce moment-là, quand même, la police lui demande comment il s'appelle, etc., et que lui, il est en train de suffoquer. Effectivement, ça a l'air d'être des exemples comme ça, anecdotiques pour moi, ils sont l'essentiel, une partie de l'essentiel de mon travail, parce que je trouve que là, on rentre dans, oui, vous l'avez dit, le minuscule singulier, mais aussi dans quelque chose que l'anthropologie a bien su faire.
Mais la vue de la rue, la vue de la rue marque quotidiennement la différence avec notre temps et la puissance des douleurs subies par les corps qui sont martyrisés, les dents les gens bancrochent, tous ceux qui ont dans leur chair l'effet des accidents qu'ils ont connus, subis.
Oui, je crois que justement, on ne s'imagine pas vraiment l'importance et surtout le nombre. C'est-à-dire que dans la rue, c'est constant. Bon, les ouvriers du bâtiment, puisqu'on bâtit beaucoup à Paris, bon, ils tombent très très fréquemment. Les accidents du travail sont très forts. Et personne ne peut les soigner. Après, c'est pour ça qu'on voit dans la rue tant de gens boitant, claudiquant, parce qu'on ne peut pas soigner encore. Il y a aussi, surtout, beaucoup la circulation et les carrosses qui dévalent et qui ne s'occupent pas des gens qui sont sur les trottoirs avec les cochers qui fouettent, soit les enfants qui les gênent.
Citer votre cher Louis-Sébastien Mercier, que vous évoquiez il y a un instant, Arlette Farge, l'auteur du tableau de Paris, si précieux, qui est publié à la fin de l'Ancien Régime, dans les années 1780, qui n'est pas exposé, dit-il, à être blessé dans ces rues tumultueuses de Paris. Une tuile, un carrosse, une poutre branlante. C'est comme ça d'ailleurs qu'a été tué, comme on sait, Cyrano de Bergerac, peut-être oui, avec intentionnalité, peut-être pas. Une poutre branlante, un marteau de maçon, un cheval, un chien danois, un portefeuille sourd et muet vous font plaie, bosse, contusion, fracture.
Mais d'ailleurs, vous parlez du chien, mais sans oublier les chiens sont en très grande quantité dans Paris, mais ils sont très dangereux parce que c'est des chiens errants. Donc là, on a à la fois les animaux, les vaches, les chèvres, les dindons qui arrivent de Gonesse. Bon, tout ça, c'est un assemblage hétéroclite, mais dans lequel la population vit quotidiennement. Et donc, l'accident est constamment là, en même temps que les abandons d'enfants.
Donc la peur, puisque les accidents.
Alors, la peur, c'est quelque chose que je trouve très, très, très fort, sur laquelle on n'a pas souvent insisté. La peur que le matin, quand vous partez au travail, il n'est pas sûr que le soir, vous rentriez vraiment tout à fait entier. Mmh. Et puis, il y a la peur de la solitude. La peur de la solitude au moment où vous êtes blessé et que vous êtes transporté à l'hôpital dans les conditions qu'on peut imaginer. Comme dit encore Mercier, il faudrait un brancard à chaque mètre. Dire ça, c'est quand même absolument impressionnant. Donc,
la solitude, c'est une chose qu'on connaît encore dans les grandes villes d'aujourd'hui.
Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très fort, de se préoccuper aussi de ce qui est... Oui, comme aujourd'hui, de ce qui peut être la solitude. Il n'y a pas que la maladie, il n'y a pas que... Et on le sait, aujourd'hui en France, la pauvreté, elle s'exprime aussi par cette angoisse de la solitude. Je suis seule, je n'ai pas de famille.
Il y a le froid et il y a le chaud dès ce 18e siècle.
Le chaud, le froid, les glaces qui, en fait, empêchent la Seine de couler, donc l'approvisionnement d'arriver, la faim. Mais les intempéries, on se rend pas compte. Et ça, les intempéries, c'est quelque chose. Enfin, quand on voit l'hiver, les gens dans la rue, on sait à quel point c'est important.
Et puis il y a les épidémies.
Alors ça, c'est quelque chose qui est évidemment qui va toucher toutes les populations. Mais évidemment, les pauvres ne peuvent absolument pas échapper aux épidémies. Parce qu'ils sont obligés de rester là où ils sont. Les gens plus aisés peuvent s'en aller à la campagne, s'éloigner de l'épidémie.
Plus la promiscuité qui
voilà, alors en plus les conditions de logement, ce qui sont quand même presque que des abris, les gens qui vivent dans les garnis à plusieurs, la promiscuité, etc.
En 1831, donc, encore au moment de l'épidémie de choléra, on peut lire que c'est tout le Paris de l'Est qui est principalement touché, beaucoup plus évidemment que le Paris de l'Ouest qui est favorisé.
Là, la grippe et les fièvres emportent les gens en 24 heures. Donc, en fait, il y a aussi quelque chose de sonore dans la rue de Paris. Enfin, c'est un peu triste à dire, mais ce sont les gémissements de ceux qui souffrent, ou dehors, ou des hôpitaux dans les conditions dans lesquelles ils sont, ou des prisons.
Le bruit de la ville est
à la fois étourdissant. Il fait peur même aux étrangers. Il y a des étrangers qui reculent quand ils arrivent à Saint-Cloud et qui voient la ville. Ils entendent d'abord avant de la voir. Et c'est les bruits assourdissants du travail, mais c'est les bruits des cris, des marchands ambulants, bien sûr. Ça, c'est très connu. Mais les bruits des pleurs, les bruits des gémissements, les bruits qui montent de la Salpêtrière, de Bicêtre, du Châtelet, de la chaîne des Galériens, c'est quoi ? C'est le bruit de la misère. Celui-là, on ne l'entend pas, nous, aujourd'hui. Aujourd'hui, la misère est presque silencieuse. Oui, quelquefois, on vient vous importuner, comme on dit, dans la rue pour vous demander de l'argent. Mais elle est quand même, quelque
très cachée,
chose qui est
dissimulée,
dans le silence. Oui. Alors, elle n'est pas toujours dissimulée, mais elle est extraordinairement silencieuse. Et moi, ça me frappe beaucoup. Il n'y a pas de hurlement ou d'injonction violente.
Alors, il y a aussi la souffrance du peuple au travail, l'atelier, les maladies professionnelles, les blessures, les conflits dans l'atelier.
Mais ça, c'est extrêmement grave et constant parce qu'effectivement, tous les matériaux qu'on emploie, je pense par exemple au mercure, les vapeurs mercuriales qui attaquent les poumons et qui détruisent absolument tous les ouvriers et les ouvrières qui travaillent, les polisseurs de glace par exemple, et les poussières de verre qui viennent aussi rendre
les piqûres dans la main
malades,
aussi,
les épingliers qui ont les piqûres partout dans les mains, donc les doigts qui ne peuvent plus travailler, donc après vous ne pouvez plus trouver un travail, et puis aussi les conflits, mais ça c'est un autre problème. C'est vrai que c'est très dangereux, par exemple, la mode des chapeaux, comme vous le savez, au 18e, c'est le chapeau. Faire la colle des chapeaux est mortel. Et donc, les ouvriers chapeliers sont les plus frappés, presque plus que ceux des ouvriers du bâtiment. On va lutter contre ça, parce qu'économiquement parlant, il faut lutter contre ces maladies. Et c'est là où il y a une espèce d'ambiguïté. Oui, les grands, l'État, la monarchie, va s'occuper, parce que la démographie, effectivement, est en danger. Donc, l'assistance, ce n'est pas toujours la philanthropie.
Le personnage de Damia, tout à l'heure, dans la chanson, craignait aussi d'être prise pour une prostituée. Il y a toute la présence des violences sexuelles à l'égard des femmes dans la rue, les agressions et une justice qui parfois ne prend pas vraiment en compte la victime au profit de l'agresseur. Encore que ce soit peut-être, elle soit plus attentive peut-être qu'au 19e siècle.
Ah oui, beaucoup plus. Moi, je trouve que les agressions sexuelles, vous avez tout à fait raison, il y en a énormément parce que Paris est mi-urbain, mi-rural. Il y a des bosquets, il y a des buissons, il y a des champs, etc. Et puis, il y a quand même une aisance entre les sexes, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, le flirt. Là, il y a du badinage, on est quand même au 18e. Mais il y a aussi un nombre d'agressions et surtout de violences conjugales. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on avait écrit Le désordre des familles avec Michel Foucault, qui parlait des gens qui se plaignaient des violences des deux côtés, d'ailleurs, des batteries à l'intérieur de la famille, des rixes extraordinairement épouvantables, un climat très violent.
Avec une présence du voisinage beaucoup plus grande, une sorte de transparence de la vie familiale qu'on ne connaît plus guère aujourd'hui.
Le mot intimité n'existe pas. Et en même temps, les viols, et moi j'assiste sur le viol parce que, par exemple, la police de Paris, il faut quand même reconnaître les choses, elle est extrêmement touchée dès qu'il y a un attouchement sur enfant. Et ça, contrairement à ce qu'on croit, c'est extrêmement condamné. C'est-à-dire, si ça peut être prouvé, mais c'est prouvé, il y a des médecins, il y a les rapports de médecins. Et moi, je suis très, très frappée que cette protection de l'enfance, on a tellement dit il n'y avait pas d'instinct maternel au 18e. Je ne sais pas s'il y a un instinct maternel, mais en tout cas, c'est intolérable pour la société. Or, ils sont extraordinairement fréquents. Je ne parle pas des incestes, d'ailleurs. Je parle des attouchements, des domestiques sur les enfants ou des gens dans la rue, etc. Là, les archives sont extraordinairement émouvante, parce qu'on a la parole même de l'enfant, et c'est rare.
Ce qui est probablement beaucoup moins vrai, mais cela nous entraînerait trop loin pour la fin du 19e siècle, qui me paraît beaucoup plus hypocrite à cet égard, beaucoup plus dissimulatrice.
Mais moi, je veux bien dire une chose. Je pense que le 18e, comme on l'a dit, est le siècle de la femme, effectivement. Et en même temps, la femme est beaucoup plus libre au 18e qu'au 19e, j'en suis certaine.
Et pas seulement dans les élites, comme on le croit parfois. Alors venons-en, si vous voulez bien, maintenant, Arlette Farge, à cette relation compliquée des classes favorisées par rapport au peuple. Pour ouvrir ce moment de notre conversation, cet extrait d'un propos que je vais vous lire de Diderot à Sophie Volant. On est le 3 novembre 1759, ce qui montre bien la complexité du regard en particulier des encyclopédistes, des philosophes à l'égard des classes souffrantes. Diderot écrit « Dès le matin, j'entends sous ma fenêtre des ouvriers. À peine le jour commence-t-il à poindre qu'ils ont la bêche à la main, qu'ils coupent la terre et roulent la brouette. » Ils mangent un morceau de pain noir, ils se désaltèrent au ruisseau qui coule. À midi, ils prennent une heure de soleil sur la terre, ils se remettent ensuite à leur ouvrage, ils sont gais, ils chantent, ils se font entre eux de bonnes grosses plaisanteries qui les égayent. Sur le soir, ils vont retrouver des enfants tout nus autour d'un âtre enfumé, une paysanne hideuse et malpropre et un lit de feuilles séchées. Et leur sort n'est ni plus mauvais ni meilleur que le mien, c'est Diderot qui écrit.
Ah, ça, c'était un étonnement complet pour moi de trouver ce passage dans les lettres à Sophie Volant, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on peut penser de Diderot. En plus, je crois que son analyse, enfin, il entend les chants. On sait très bien que les chants des ouvriers de la terre étaient des chants justement pour avoir moins de peine. Ce n'était pas des chants forcément gais. Mais par ailleurs aussi, il n'est pas concevable que quelqu'un qui soit un ouvrier puisse avoir une femme charmante. C'est impossible, ça. C'est quelque chose, voilà, même si elle l'est. Non, elle est hideuse. Et d'ailleurs, il y a aussi un voyageur anglais qui s'appelle Smollett. Ses descriptions des gens de la campagne ressemblent à une description d'animaux.
Ils ont le visage sévère et leurs femmes les traits les plus grossiers que j'ai jamais vus. Tous les gens ordinaires sont des voleurs et des gueux, comme le sont toujours, me semble-t-il, les indigents et les miséreux. La peur n'est pas seulement dans le peuple, en face du peuple, mais elle est aussi chez les grands, en face du peuple. Mais il y a néanmoins quelque chose qui rapproche les uns et les autres, ce sont les relations avec la maladie, avec le corps qui souffre tant partout, les dents, les jambes, le froid. Cette lettre de Madame de Sévigné à sa fille Françoise de Grignan, le 3 février 1676, qui est ici lue par Jeanne Boitel.
« Devinez ce que c'est, ma fille, que la chose du monde qui vient le plus vite et qui s'en va le plus lentement, qui vous fait approcher le plus près de la convalescence et qui vous en retire le plus loin, qui vous fait toucher l'état du monde le plus agréable et qui vous empêche le plus d'en jouir, qui vous donne les plus belles espérances du monde et qui en éloigne le plus l'effet. Ne sauriez-vous le deviner? Jetez-vous votre langue au chien. C'est un rhumatisme. Il y a 23 jours que j'en suis malade. Depuis le 14, je suis sans fièvre et sans douleur et dans cet état bien heureux, croyant être en état de marcher, qui est tout ce que je souhaite, je me trouve enflée de tous côtés, les pieds, les jambes, les mains, les bras. Et cette enflure qui s'appelle ma guérison, et qui l'est effectivement, fait tout le sujet de mon impatience et ferait celui de mon mérite si j'étais bonne. Cependant, je crois que voilà qui est fait et que dans 2 jours, je pourrai marcher. L'arme-chat me le fait espérer. Oh, qu'espéro! Je reçois de partout des lettres de réjouissance sur ma bonne santé, et c'est avec raison. Je me suis purgé une fois de la poudre de Monsieur Delorme, qui m'a fait des merveilles. Je m'en vais encore en reprendre. C'est le véritable remède pour toutes ces sortes de maux. Après cela, on me promet une santé éternelle. Dieu le veuille. Le premier pas que je ferai sera d'aller à Paris. Je vous prie donc, ma chère enfant, de calmer vos inquiétudes. Vous voyez que nous vous avons toujours écrit sincèrement. Avant que de fermer ce paquet, je demanderai à ma grosse main si elle veut bien que je vous écrive 2 mots. Je ne trouve pas qu'elle le veuille. Peut-être qu'elle le voudra dans 2 heures. Adieu, ma très belle et très aimable. Je vous conjure tous de respecter avec tremblement ce qui s'appelle un rhumatisme.
Il y a la menace constante de la maladie et la présence de la mort, cette place notamment de la petite vérole qui inquiète temps, les riches, les élites, les courtisans, autant que les gens du peuple.
Bien sûr. La petite Vérole, c'est tout à fait au début du siècle, en 1723, et elle décime dans Paris vraiment énormément de monde. 3000 personnes, un nombre très considérable d'enfants. Et c'est vrai que les aristocrates en ont extrêmement peur. Les femmes en ont d'abord peur parce qu'elles savent qu'elles auront des boutons, des cicatrices, et elles vont s'inquiéter beaucoup. Alors, dans leur correspondance, elles écrivent à leur mari ou à leur fiancé. Voilà, et elles ne s'inquiètent pas tant de la gravité énorme. La petite Vérole, c'est mourir quand même la plupart du temps. Leur beauté ravagée. C'est vraiment... d'ailleurs, c'est très impressionnant. Moi, ça me fait penser à la dernière lettre de Madame de Merteuil qui retire son phare dans les liaisons dangereuses et où on voit qu'elle est toute grêlée, en fait, de petite Vérole. Donc, voilà, il y a ce problème-là.
Là, c'est destin qui vient punir la méchanceté,
la
complicité entre Madame de Merteuil et Valmont.
Sûr. Voilà. Mais c'est très, très bien noté, en fait, donc, cette peur-là. Mais bon, c'est... À part cette peur, il y a derrière la petite Vérole une peur de la mort extraordinaire. C'est-à-dire qu'à la cour, on apprend que le roi Louis XV a attrapé la petite Vérole. Et,
tout le monde a peur, quel que
mais
soit...
Mais une peur incroyable, c'est-à-dire qu'on ne veut plus traverser la galerie des glaces.
Les courtisans, chose extraordinaire, s'éloignent du souverain.
Ils s'éloignent du souverain... Contrairement à leurs habitudes, quand même, c'est très important. C'est Madame Campan qui raconte que ceux qui ont traversé la galerie des glaces, il y a eu 50 morts. Je ne sais pas si c'est fiable comme témoignage, mais en tout cas, ça donne l'idée de cette peur terrible parce que ça vous fait partir très, très vite. Et c'est ce qui fait, à la cour, la mort, contrairement à ce qu'on dit que les gens sont habitués à la mort et tout, à la cour, la mort fait extrêmement peur. C'est un spectre avant même d'en être un. Les morts sont saisissantes et on connaît le chagrin aussi du régent devant la mort de la duchesse de Berry. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de relations, de chroniqueurs qui ont raconté à quel point l'arrivée de la mort pouvait être une angoisse permanente. Et puis, fait très étrange, dès que la personne est morte, que le corps est parti, que le convoi s'en va, c'est fini, on n'y pense plus. Parce que plus important encore est de réorganiser la situation de la cour, les positions, les distinctions, les préséances par rapport au roi ou face au roi. Et voilà, le mort s'est enfui et maintenant, il faut absolument qu'on prenne la place du mort. C'est une étrange, très étrange conception. Alors que la mort chez les pauvres, quand elle est consommée, quand la mort est arrivée, le chagrin est fort. Ils continuent. Ils sont très souvent malades. Ils souffrent vraiment dans les correspondances. Madame d'Épinay, par exemple, dans sa correspondance avec Galiani, tous les deux, ils commencent toujours, c'est le début de toutes les lettres, par tous leurs mots. Ils ont mal vraiment partout. Mais je les crois vraiment. Ils ont les doigts gourds parce qu'il fait très froid.
Ils ne peuvent pas écrire comme Madame de Sévigné. Madame Galiani se plaint de ne plus pouvoir écrire.
Ils ont mal au dos. Ils ont aussi ce qu'ils appellent des coliques d'entrailles. Ils ont vraiment des problèmes de digestion, mais ils souffrent, je crois, le martyr, parce qu'il n'y a rien pour finalement les soigner.
L'estomac est essentiel, c'est le roi estomac, Gaster.
Absolument, et les descriptions sont terribles et pas tellement drôles à lire, parce que tous ces gens qui ont des maux d'entrailles se soignent comme ils peuvent, rattrapent, paraît-il, leurs entrailles avec la main, enfin, ont vraiment de gros soucis avec cela. Mais ils ont, si vous voulez, le réconfort, l'entourage, le confort, et puis aussi toujours un grand capital d'ambition. Malgré, d'ailleurs, on l'entend dans la lettre de Madame de Sévigné, elle plaisante à la fois de ce rubatis. Elle dit que la première chose qu'elle fera, c'est qu'elle ira à Paris. Elle ira reprendre sa vie de lettrée. Pour moi, j'estime qu'il y a une différence fondamentale tout de même entre ces types de souffrances. Parce que, bien sûr, c'est extraordinaire d'avoir toujours auprès de soi un entourage qui va essayer de vous soigner. Et puis un rapport au médecin.
Alors là, c'est très important. Une grande différence, évidemment, entre les riches et les pauvres dans ce XVIIIe siècle, c'est que les pauvres ne peuvent guère accéder qu'à l'appui des guérisseurs ou des charlatans. Alors qu'il y a entre ces élites et les médecins des relations singulières. Madame de Sévigné parlait tout à l'heure de M. Delorme et de sa poudre. Il reste une supériorité sociale du malade par rapport au médecin, sans que ce médecin soit forcément aussi ridicule que dans Molière. Et cela est aussi une différence entre les classes sociales majeures.
Le plus étonnant, je crois, c'est que nous sommes en plein progrès médicaux à la fin du XVIIIe siècle, avec la création par le roi de la Société royale de médecine en 1775, et le médecin Vic d'Azyr qui va envoyer tous les médecins dans la France. Donc les élites le savent, les philosophes en discutent. Et en même temps, le malade aristocrate ou riche, aisé ou grand bourgeois se méfie des médecins. Il reste du Molière. C'est-à-dire qu'ils disent souvent, enfin il y en a un qui emploie cette expression, mais moi je ne veux pas voir de médecin parce qu'il s'agira alors pour moi d'un long assassinat. Et en fait, ils vont se tourner très superstitieusement aussi vers des charlatans, des escrocs, dont on retrouve les traces aux archives de la Bastille parce qu'ils sont parfois emprisonnés, qui vendent, comme d'ailleurs Madame de Sévigné le vient de signaler, des poudres, des élixirs, des onguents, bon, qui vont leur faire gagner beaucoup d'argent. Et lorsqu'ils vendent ces produits, j'avais trouvé très très intéressant de trouver une liste de tous ces élixirs et à quoi ils servaient, et étaient mélangés élixir pour pas avoir de rhume, élixir pour le rhumatisme, mais aussi élixir pour être bien considéré, élixir pour avoir un bon rapport à la cour. Donc cette espèce de mélange, bon, je crois que la santé, c'est aussi d'être remarqué, de faire partie de cette classe noble qui doit pouvoir garder prestance, et qui est Madame de Sévigné avec ses rhumatismes. Quand elle s'explique qu'elle est toute enflée, c'est pour elle, ça doit être absolument une catastrophe qu'un pauvre qui est tout enflé, il est tout enflé.
On comprend que cela permette le triomphe des poudres de perlimpinpin.
Oui, mais c'est terrible, c'est des poudres de vraiment perlimpinpin, puisqu'il y a quand même des gens qui en meurent. Et j'ai travaillé sur des correspondances de malades, c'est presque des gourous, ces gens qui vendent ces élixirs. Il y a 2 médecins ou 10 médecins qui se sont fait emprisonner à la Bastille pour cela, mais dans les lettres, on voit que là, par rapport au charlatan, parce qu'il faut l'appeler comme ça, mais le patient est un véritable dominé. Même s'il est d'une classe sociale très aisée, il se remet corps et âme. Il prend les poudres aux heures qu'il faut. Bon, quelquefois, il gronde parce que ces poudres ne vont pas bien. Et ils ont peur du médecin.
Mon sauveur, on trouve cette expression souvent.
Oui, mon sauveur. Et même, il y a une espèce de lettre d'amour d'une femme. Elle appelle mon ami, mon sauveur. Et c'est toujours... C'est drôle, c'est le mari qui met les lettres, et donc le mari voit bien que sa femme est totalement énamourée de ce monsieur qui est en train de l'empoisonner. Je trouve ça intéressant sur le plan même, par exemple, par rapport à aujourd'hui. Je pense qu'il reste quelque chose de la peur du médecin, c'est-à-dire que, bien sûr, on est tous confiants dans les progrès de la médecine, et surtout les énormes progrès, par exemple, ce cœur artificiel qui vient d'arriver, c'est effectivement quelque chose d'énorme. Mais en même temps, combien de gens vont voir d'abord plusieurs médecins à la fois, ils n'ont pas confiance, donc ils vont en voir d'autres. Et combien vont voir des guérisseurs? On ne veut pas le dire, mais c'est énorme. Et en même temps, je pense que dans la stratégie de quelqu'un qui est malade, il y a la volonté de pas être infantilisé par son médecin et de pas être dominé par lui. Et donc, pour pas être dominé par lui, il vaut mieux aller voir des gens qu'on sent plus égaux. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui est assez intéressant si on voulait approfondir les choses.
Au XVIIIe siècle, on voit déjà, un peu comme aujourd'hui peut-être, que le médecin est destiné à guérir, on l'attend, mais en même temps, il va désigner la maladie et du même coup, va lui donner en quelque sorte existence.
Il y a absolument ça. C'est-à-dire, s'il désigne la maladie, c'est la peur qui est augmentée. Tandis que si vous prenez une poudre en vous disant que ce sera un élixir qui vous convient, ça va forcément marcher. Donc, voilà.
Mais alors, dans la relation entre les élites et les pauvres, et l'éventuelle inégalité devant la souffrance et la mort, certains égards, ressemblance, sorte de communion partagée, et en même temps... progrès inégaux de la médecine, c'est la grande question notamment de la vaccination contre la petite vérole que vous évoquez tout à l'heure. C'est un débat très intéressant quant à la peur, quant à l'aspiration à la guérison, quant à l'inquiétude et aussi quant à l'éventuelle utilisation de cobayes dans le peuple pour voir ce que ça va donner avant qu'on prenne le risque que les élites oui. se fassent vacciner.
Alors ça, c'est un débat qui va être mené par les philosophes. Faut-il ou ne faut-il pas inoculer ? L'inoculation commencera en 1734. Les pères de famille, souvent, c'est là qu'on les voit apparaître d'ailleurs, dans certaines correspondances, sont très inquiets de savoir ce qui se passera si on inocule les enfants. Il y a encore, effectivement, c'est encore incertain comme médication. C'est Saint-Aubin qui dira « Je veillais sur mon fils et j'étais son bourreau ». Et l'enfant meurt en effet de cette inoculation. Mais malgré tout, cette inoculation avance, mais à quel prix ? C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de médecins décident, et la police aussi, le lieutenant général de police est d'accord avec cela, qu'on devrait, sur les délinquants, sur les galériens, sur les pauvres et sur les mendiants, essayer l'inoculation pour voir ce que ça donne.
Il y a même une dame assassine qui est meurtrière, que l'on songe à utiliser
oui,
comme
cobaye. Oui, c'est la veuve Lescombat, très connue. Oui, elle a tué son mari pour rester avec son amant, donc elle va être exécutée.
C'est
et on
se
dit,
bah,
pourquoi pas essayer sur elle. Mais il y a aussi cette curieuse invention de se dire, on va tirer au sort, comme on le fait pour le recrutement des soldats, on va tirer au sort billet noir ou billet blanc
parmi les
chez les pauvres, et celui qui tire le billet noir est inoculé. Remarquez, pour certains, ça a dû porter chance. Mais c'est simplement, ici, l'intéressant, c'est de voir de quoi est fait le système mental qui est là et dont il semble bien que les philosophes n'aient pas su répondre à ce genre de questionnement. Quand on voit, vous avez lu le texte de Diderot, on pense aussi à Voltaire, qui ne parviennent pas, je dirais, je ne pense pas que ce soit leur volonté absolue, qui ne parviennent pas à assimiler le pauvre comme un être humain. C'est une entité, il faut s'en occuper parce que l'économie, il faut qu'elle marche. C'est une entité plus ou moins homogène, ce ne sont pas des personnes humaines.
Et pourtant, il y a dès ce moment-là des réactions. Votre cher Louis-Sébastien Mercier est à cet égard, notamment envers les femmes, assez ambivalent, tantôt
oui.
misogyne, tantôt, on pourrait presque le dire, féministe. Et puis, il y a cet effort d'un certain nombre d'aristocrates souvent provinciaux, oui. mais éclairés pour apporter au peuple non seulement leur compassion, comme on le disait tout à l'heure, mais leur appui. On voit un personnage dans le fameux film Ridicule de Patrice Lecomte, qui a beaucoup de succès, un film de 1996, et qui évoque la cour de Louis XVI dans une période de véritable décadence. On voit ce personnage qui vient s'efforcer, alors qu'il est désargenté et tout à fait candide, tout en ayant beaucoup d'esprit, venir s'efforcer d'obtenir du souverain un appui pour assécher les marais de la Dombe, infestés de moustiques redoutables pour les paysans.
Je crois reconnaître votre obligé. Tout frais de votre belle province, vous devez avoir un regard aiguisé sur les ridiculités de la cour.
Il est écrit « Ne juge point et tu ne seras point jugé ».
Vous pensez bien que si les évangiles étaient de quelque utilité à Versailles, cela serait venu à ma connaissance. Joignez-vous à notre partie, si le cœur vous en dit. Nous jouons à 10 sols le point.
Les boucles d'argent de mes souliers sont ma seule richesse. Mais vous pouvez les estimer de plus près. En vous courbant bien.
Que sollicitez-vous à Versailles ?
La charge d'assainir les marais de la Dombe, un paradis pour les moustiques. La vie d'un paysan n'y dépasse pas 35 ans.
Pauvres gens. Comme un malheur ne vient jamais seul, leur simple évocation provoque l'ennui.
C'est que voyez-vous, monsieur, les paysans ne nourrissent pas seulement les moustiques, ils nourrissent aussi les aristocrates.
Il est moins sot qu'il n'en a l'air.
C'est toute la différence entre nous, monsieur.
Sa Majesté, la Reine !
Arlette Farge, nous avons là un moment qui est restitué, vous semble-t-il, de bonne façon par le cinéaste ?
Je pense que cette scène est une scène très très intéressante, comme tout ce qui est montré aussi sur les repas des aristocrates et la dérision et cette espèce de libertinage de vocabulaire et de persiflage, ce qu'on a appelé après le persiflage des Lumières. Je ne dis pas pour autant qu'il n'y a pas des aristocrates qui se sont préoccupés dans certaines paroisses, dans certaines villes, et qui sont venus plaider la cause des pauvres et aider des instituts hospitaliers à se fonder. Et ça, il faut le reconnaître. Et là, c'est encore autre chose. Je crois que c'était pour eux, c'est un autre monde. Comme nous pensons finalement que, je ne sais pas, même si on est conscient de ce qui se passe en Afrique, en Centrafrique, tout ça, c'est comme un autre monde. On a énormément de mal à être, j'allais dire, le partenaire de cœur de ceux qui souffrent là-bas.
Dans La Bruyère, par exemple, on trouve aussi des textes très impressionnants sur les paysans, marqués par une totale incompréhension, un sentiment de distance formidable.
Oui, mais c'est quelque chose qui est vraiment récurrent. Il y a même des fables de La Fontaine, qui sont quelques-unes. C'est ce qui nous a pétris quand même. Enfin, nous avons des traces de cela. Et c'est ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est de voir comment elles viennent jusqu'à nous sans qu'on en ait conscience. Au fond, dans nos veines, coule le sang de nos ancêtres. Et ce sang, il est mêlé d'affect, il est mêlé d'intelligence, etc. Mais il est là, il est présent. Et c'est un fleuve intarissable.
Il y a néanmoins dans le peuple des catégories qui peuvent servir d'intermédiaires entre ces bourgeois et ces aristocrates et les plus défavorisés. Ce sont les domestiques, oui. Les relations entre les nobles et les bourgeois et les domestiques, éventuellement d'ailleurs les maîtres artisans, sont intéressantes à observer du point de vue d'aujourd'hui, non, Arlette Farge?
Ah oui, tout à fait, parce que c'est une population intermédiaire. Le domestique, c'est celui qui est vraiment entre les gens qu'ils servent, donc les aristocrates qu'ils servent, et ils connaissent bien la population.
Marivaux a beaucoup à nous dire à cet égard.
Ah là, c'est un théâtre splendide pour ça, parce qu'effectivement, il peut montrer là une véritable moquerie des classes sociales, enfin une sorte de facétie où les aristocrates vont se laisser prendre. Parce que le domestique, justement, comme il est entre deux milieux, il a l'intelligence vraiment très forte de ce qui se passe dans ce milieu-là et aussi, justement, des aveuglements des aristocrates. Et c'est pour ça que, c'est vrai que le théâtre de Marivaux, en ce sens, est effectivement toujours très... très, très fort, en dehors aussi du problème du travestissement des hommes en femmes et réciproquement, parce que là aussi, il y a une espèce de dérision qui est menée tambour battant, j'allais dire, ou plutôt de façon libertine, montrant l'excellence même de la société libertine dans son pleine efflorescence. Quoi.
Est-ce qu'on ne peut pas avoir le sentiment que, dans ce XVIIIe siècle, au moins tel que reflété dans cette littérature, peut-être partiellement mensongère, que dans ce XVIIIe siècle, il n'y a plus de proximité entre le milieu des servantes, des serviteurs, des valets et ceux qu'ils servent, que ça n'a été le cas, par exemple, sous la période de la bourgeoisie triomphante de la Troisième République.
Ah oui, moi je suis d'accord avec vous. Je pense que vraiment les domestiques sont très proches et les aristocrates ont très besoin de leurs domestiques. Et voilà, des confidences qu'ils peuvent leur faire. Après, le monde des domestiques et des servantes est très très hiérarchisé. La servante d'auberge, ça n'a rien à voir, évidemment. Les grands domestiques sont même parfois des conseillers. Donc c'est vraiment un monde tout à fait à part. Mais en même temps, les domestiques sont aussi des gens, comme ils ont vraiment pied dans la population, ils peuvent être aussi des fomenteurs de grèves ou d'émeutes, parce qu'ils ont cette espèce de puissance sur la population plus humble. Ils ont de grands rôles, justement, dans les appels aux émeutes. Ce sont eux les moteurs. Et après, il y a les compagnons, évidemment, dans les ateliers, mais sans quoi ils sont très souvent moteurs.
Ce que nous appellerions les manifestations. À l'époque, on dit les émotions.
Oui, les émotions populaires. Voilà.
Il y a un domaine, Arlette Farge, où se révèlent de façon spécifiquement puissante les conflits latents entre les riches et les pauvres. C'est le domaine de la conscription, plus exactement du recrutement de la milice. On voit par exemple en 1743 des protestations lorsqu'est élargie la possibilité de recruter dans le peuple des soldats pour faire la guerre. Je trouve que cela mérite qu'on s'y attarde un instant du point de vue qui nous occupe dans cette émission, c'est-à-dire la complexité des relations sociales quant à la souffrance, quant à la misère entre les élites et le peuple au XVIIIe siècle.
En effet, en 1743, il est décidé de recruter profondément et abondamment dans Paris. À cause de cela, on va changer les ordonnances et en fait, on va demander, ce qui ne se fait jamais, aux domestiques même d'être recrutés et d'être miliciens et pas soldats. Or, le titre de la milice, ce n'est pas le soldat. Donc, ça fait vraiment tapage partout. D'ailleurs, les aristocrates eux-mêmes sont extrêmement fâchés de perdre leurs domestiques et de les voir partir.
Vous avez trouvé d'ailleurs plusieurs lettres de nobles protestants pour défendre leur
Oui, parce que c'est le lieutenant général de police Marville à l'époque qui tient cette affaire et qui donc lance ce recrutement sauvage, on peut dire, parce qu'on court dans les rues après des fuyards, parce qu'en fait aussi on demande un recrutement forcé auprès des plus humbles, souvent un peu en état d'ébriété, saoulés par les recruteurs dans les tavernes et qui vont effectivement s'inscrire pour partir. Mais ce que j'ai trouvé très très intéressant dans ce petit morceau d'histoire qui est minuscule et peu connu, c'est que justement, on demande aux mères, aux mamans, d'aller présenter leur enfant au commissariat de police pour qu'il soit recruté. Or, ce sont les mères qui vont se révolter le plus, faire tapage, comme on disait à l'époque. À la suite de ça, comme ça commence à gronder beaucoup dans la ville, et que ça, c'est la peur la plus grande de la police, c'est de voir la population gronder, eh bien, on va autoriser les dénonciations. Donc, il va y avoir des courses aux fuyards tellement graves, gravissimes, tellement lourdes, qu'il va falloir arrêter le mouvement. Le lieutenant de police de Marville va se sentir acculé à changer quand même parce que l'État est en désordre complet. Et il y a ces plaintes des maires et ces lettres des maires. Alors, dans le dossier du lieutenant général de police Marville, il y a des lettres de maires qui disent « je ne peux pas vivre sans mon fils économiquement », etc. Il y a de très belles lettres écrites plus ou moins phonétiques d'ailleurs, la façon dont il pouvait écrire. Et puis, il y a des filous. Et il y a des amis de Marville qui ne veulent pas que les domestiques partent. Et il y a cette scène qui est quand même étonnante, c'est-à-dire d'un ami du lieutenant général de police qui le sollicite pour son neveu, qui lui dit qu'il lui offrira du champagne. Et le lieutenant de police Marville donnera l'exonération, en effet. Et en bas de la lettre, il met du champagne. D'accord, oui. Mais du bon. J'ai trouvé ce dossier extrêmement intéressant parce qu'il met en cause, en effet, bon, d'abord de la corruption, bien sûr, mais aussi, encore une fois, cette sorte de volonté d'essayer les choses d'abord sur les plus pauvres et de considérer cette population comme étant corvéable à merci, comme on le disait au Moyen-Âge, à la limite. Et en même temps, la résistance populaire. Et les maires, parce que c'est très très rare de voir les maires venir faire des lettres et défendre leurs enfants. En général, c'est le pain qu'elles défendent, ou le prix du pain. Et donc voilà, c'était un dossier qui pour moi a beaucoup d'écho.
À propos de maternité, Arlette Farge, la question des enfants, des nourrissons, des bambins est aussi intéressante à observer, peut-être révélatrice du point de vue qui nous occupe, élite et peuple au XVIIIe siècle. Nous allons le voir dans ce second extrait du film de Maurice Cloche, Monsieur Vincent. Il s'agit d'un dialogue entre Vincent de Paul, futur saint Vincent de Paul, et une dame de charité que la fortune n'a pas désavantagée. Vous allez voir.
Qu'est cela, monsieur ?
Ma réponse. Vous trouvez que j'entreprends trop ? Moi, je pense que je n'entreprends pas assez. J'ai sauvé cet enfant ce soir, mais il en meurt, trois ou quatre, innocents comme lui, chaque nuit, au porche de chaque église.
Dieu veut qu'il meure, peut-être, monsieur. Ce sont les enfants du péché.
Quand Dieu veut que quelqu'un meure pour racheter le péché, c'est son fils, madame, qui l'envoie. Dieu n'a pas voulu qu'un seul innocent meure au nom du péché. C'est la lâcheté, l'incurie, l'indifférence, le vice caché des hommes. Qu'il accepte.
Monsieur Vincent, je vous respecte. Mais je ne vous suivrai pourtant pas partout. Je hais le péché, je hais le vice, et si grand que soit votre amour de la charité, il ne me les fera pas aimer. Cet enfant du péché et du vice, je le hais. Monsieur Vincent, Nous sommes déjà bien chargés, nous vous l'avons dit ce soir. Je sais que vous ne nous écouterez pas, nous qui sommes riches et oisives. Mais ces filles, qui n'ont que le travail de leurs mains à donner, et qui le donnent du matin au soir, vont vous le dire aussi. Elles ne peuvent plus.
Puisque Dieu le leur demande, elles pourront davantage.
Nous vous parlons le langage de la raison.
C'est moi qui voulais parler le premier, ce langage. Je vous ai toujours dit qu'il ne fallait pas enjamber sur la marche de la Providence. Mais ce soir, je ne vous le dis plus. J'ai peur d'être terriblement en retard sur elle.
Monsieur Vincent, pour recueillir ses enfants, il y a une institution, la couche.
Madame,
elle paie des nourrices pour les élever, vous ne le savez pas?
Je ne sais pas ce qui a été fait pour les enfants perdus. Je sais seulement que si je n'ai pas suivi cette femme ce soir, cet enfant serait couché dans une auge à la porte de l'église. Qu'il serait mort maintenant.
Vous ferez ce que vous voudrez, monsieur. Je suis sûr, moi, qu'aucune des honnêtes femmes ici présentes ne voudra souiller ses mains de mère à soigner ces petits misérables et rentrer toucher ses enfants à elle le soir.
Voilà qui me paraît assez violent, n'est-ce pas, Arlette Farge, les enfants dont le contact suffirait à venir souiller ceux des gens de bonne famille.
Et peut-être, surtout, je dirais, cet amalgame toujours fait entre la pauvreté et le vice, forcément. C'est-à-dire, être pauvre, c'est être vicieux. Et donc, ces enfants abandonnés... Bon, cette femme, elle plaide absolument pour quelque chose qui est une séparation totale, en fait, entre la mère et l'enfant. Parce que elle dit comment c'est ça, c'est cette espèce de volonté, enfin ou plutôt de croyance, que de toute façon, si vous êtes misérable ou dans la misère, eh bien sûr, vous êtes l'objet du péché, enfin le lieu du péché et le lieu du vice. Moi, bon, je crois que c'est encore quelque chose que nous avons en tête, même si nous essayons de malmener nos idées pour être autrement, mais je pense que les États vivent ainsi.
Alors il y a le cas, nous finirons là-dessus, si vous voulez bien, le cas des adoptions qui sont intéressantes, parce que quand on choisit d'aller chercher dans le peuple un enfant qu'on n'a pas pu avoir soi-même, cela enseigne sur beaucoup de choses. Il y a le cas passionnant de Marie-Antoinette, qui vient à un moment donné, voyant un enfant passer devant son carrosse, décide, puisqu'elle ne veut pas avoir d'enfant elle-même, de l'adopter. Et là, le mécanisme compassionnel est marqué, je dirais, à la fois par l'immédiateté, par l'impétuosité, donc oui, par une sorte de manque de conscience des conséquences de ce qu'on va faire.
C'est presque une scène de film. C'est-à-dire qu'un carrosse qui fonce, un enfant blessé. Dans le carrosse, c'est Marie-Antoinette. Elle se met à la fenêtre, elle voit une grand-mère avec 5 petits-enfants. L'enfant blessé se relève. Elle demande à la grand-mère, mais vous en avez combien comme ça? Et la grand-mère dit à quel point elle est malheureuse. Et donc, elle arrache des bras de la grand-mère le petit-enfant qui a été blessé. Et le carrosse s'en va avec Marie-Antoinette qui voulait tant d'enfants. Et l'enfant, pendant tout le voyage, va absolument hurler à sa mère et à sa grand-mère. Et pour elle, ça n'a pas d'importance. En plus, il vivra une vie terrible à Versailles. Il fera partie ensuite des révolutionnaires en 1792 les plus acharnés.
Il est mort à Jemappe, à la bataille de Jemappe. Oui,
oui, c'est vraiment un sort étonnant. Et c'est surtout, comme vous dites, cette impétuosité et en même temps, cette impossibilité de voir et le chagrin d'un enfant et le chagrin d'une famille pour faire du bien. Parce qu'il aura toujours été bien nourri, effectivement.
Il est réifié, cet enfant.
Voilà, c'est ça. Et, bon, et l'impétuosité, là, n'est même plus de la réflexion. C'est une sorte de surgissement presque fou de la part de Marie-Antoinette. Mais elle croit faire le bien.
Eh bien, je trouve que ce n'est pas une mauvaise conclusion. Nous suggérerons cette scène à Patrice Lecomte ou à Bertrand Tavernier. Votre dernier ouvrage s'intitule « La déchirure, souffrance et déliaison sociale au XVIIIe siècle » paru chez Fayard en 2013. Vous avez été sur la liste des derniers choix du prix de l'essai Médicis, n'est-ce pas? Je vous félicite. Arlette Farge, je pourrais citer beaucoup de vos autres ouvrages, ils seront naturellement sur le site. Samedi prochain, nous parlerons à l'occasion du cas qui a ému l'Inde tout entière, de cette jeune fille qui a été violée, tuée dans un autobus, qui a provoqué d'immenses mouvements collectifs. Nous parlerons des féministes dans ce pays, des féministes en Inde. 2 siècles de combat avec la grande spécialiste qu'est Martine Van Vergens. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou et Nathalie Lempereur, réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Élise Leu, à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archivina Véronique Jolivet. Et dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque samedi, avec ses invités, Dominique Rousset pour l'économie en question.